Perché non sa voler bene?
Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo.
Perché non sa voler bene?
أنت لاعب الكرة. هل تعرف أن الكرة محرمة؟
You know, I don't see what there is to be cagey about, Mr. Marlowe. And I don't like your manners.
Well, I'm not crazy about you, as I didn't ask to see you.
Mais recueillons-nous plutôt devant l'image de souffrance de ce beau visage de prédateur des montagnes.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue pour ce 93e numéro de D'étoiles plein les yeux, votre émission de cinéma sur Transistor. Et cette semaine, notre toile nous montre les errances espagnoles d'un réalisateur en détresse avant de s'écarter sur l'évocation tonitruante d'un célèbre chevalier. Quant aux yeux, ce sont ceux de Maë que nous retrouvons cette semaine, et puis ceux de Juliette qui nous fait les honneurs de rejoindre l'équipe de D'étoiles plein les yeux. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir Rémi.
Alors très rapidement, je reviens sur le scénario de ce film. Le personnage principal, c'est un certain Toby, réalisateur de spots publicitaires. Et à l'occasion d'un spot qui met en scène le personnage de Don Quichotte, il se souvient d'un film d'études réalisé il y a quelques années, où justement il avait tourné l'histoire de Don Quichotte, un certain film L'homme qui tua Don Quichotte, et soudain en panne d'inspiration, il retombe donc sur ce film et retrouve l'acteur du film qui, depuis cette époque, est resté bloqué dans son personnage de Don Quichotte. Dès leur rencontre, il finit par prendre notre réalisateur pour Sancho et l'embarque soudain dans ses rêves pour un certain nombre d'aventures hautes en couleurs. Et on va tout de suite, avant de commencer à discuter du film, se plonger dans quelques bouts de bande-annonce.
Look, do you remember years ago, about 10 years ago, I was making a film? You were just an old man I found.
I was lost. But God.
Yeah, right, but then I found you, and I thought, this guy has an interesting face. It's the kind of face I'd use now to sell insurance.
I owe you a great debt, Sancho. You restored it to me.
You really don't remember? Don Quixote de la Mancha, the knight of the mournful countenance,
come to restore the lost age of chivalry by a special will of heaven.
Alors, je me tourne tout de suite vers vous, Juliette et Maë. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film?
Moi, j'en attendais beaucoup. Enfin, beaucoup. Je trouvais que la bande-annonce promettait beaucoup de choses. Et effectivement, c'est en partie rempli, particulièrement dans une première partie du film, je dirais même deux bons tiers, où effectivement, on est embarqué dans les aventures de Don Quichotte et de Toby, qui devient son nouveau Sancho Panza pour le temps de retrouver l'Espagne qu'il avait découverte quand il était plus jeune. Et donc j'ai beaucoup aimé cette partie très folle où on oscille sans cesse entre rêve et réalité, où on ne sait jamais trop où on est. Et j'ai été un peu plus décontenancée et je dirais même déçue, je crois, par la fin qui part sur une histoire avec des Russes, une mafia russe, et des... où d'un seul coup on perd un peu le fil initial de cette nostalgie de Don Quichotte, on essaie de retrouver ce film dans le film. Et donc j'ai été un peu perdue par cette fin où il y a plein de mini-histoires qui s'imbriquent de nouveau et où voilà, j'avais plus de mal à suivre l'intention de départ.
Maë ?
Oui, moi je rejoins assez Juliette sur ce point-là. Je trouve que c'est un film vraiment sympathique qui se laisse regarder avec plaisir. J'ai beaucoup aimé aussi, et je rajouterai la musique en fait. Enfin, c'est un peu bête, c'est un peu kitsch parfois, mais franchement, on sent que le réalisateur s'est fait plaisir et moi ça m'a fait plaisir aussi. Et j'ai bien aimé le côté, oui, un peu romanesque, un peu romantique du chevalier errant, Don Quichotte. Je trouvais que ça rajoutait un peu de la profondeur à ce film. Je trouvais aussi que on se laissait à rire quand même, franchement, deux, trois fois. Mais c'est vrai que ouais, la fin, c'est peut-être un peu trop long, ou alors j'ai un peu plus perdu le fil sur cette sorte de... Ça finit un peu en feu d'artifice de couleurs, de costumes et de personnages, et aussi de péripéties qui m'ont peut-être un peu perdu sur la fin.
Alors, je vous rejoins, mais j'atténue beaucoup votre propos. Enfin, en tout cas, je vous rejoins, mais c'est quelque chose que j'ai vu et qui ne m'a pas gêné, on va dire. Alors, c'est vrai qu'on retrouve là un travers habituel, j'ai envie de dire, de Terry Gilliam, de ne jamais, de pas savoir terminer le film. Enfin, il y a combien ? Il y a 7 fins, il y a 8 fins dans ce film. Et c'est vrai que le film dure 2h30, donc en fait, la dernière heure, c'est la fin. Et on lui connaît cette tentation de la très longue apothéose qui se reproduit aussi ici. Là où je dis que ça m'a absolument pas gêné, c'est que ça reste toujours complètement dans cette dynamique ludique qui est celle de tout le film, de ce réalisateur qui se met en scène en permanence dans tous les personnages et qui joue avec le cinéma comme un gosse qu'il découvrirait. Et il y a cette sincérité et en fait très paradoxalement cette simplicité de ce film. C'est extrêmement baroque scénaristiquement, alors là n'en parlons même pas, mais même dans les couleurs, dans le montage, ça bouge beaucoup, mais le message est très très simple. On voit vraiment Terry Gilliam s'amuser et s'amuser avec ses personnages, pas dans le sens où il se joue d'eux, mais dans le sens où il joue à côté d'eux. Et je trouve ça très touchant dans ce film.
Alors, il joue avec les personnages. Quand tu parles de simplicité, je trouve par exemple que les personnages féminins sont d'une simplicité presque navrante à certains moments. Donc, il joue certes avec ses personnages, mais avec les personnages dont il a, enfin, qu'il préfère. Donc, en gros, le réalisateur qui est comme peut-être un double de lui-même, où il revient sur sa propre jeunesse, sur ses propres films précédents. Enfin, on a tout un fond sur qu'est-ce que le monde du cinéma fait, sur les personnes qui y accèdent, est-ce que ça leur laisse des espoirs qui seront déçus. Enfin, tout ce fond qui fait presque comme un film testament, je sais pas, ou quelque chose où il revient sur sa carrière. Et donc voilà, je trouve que les personnages de femmes, je sais pas, enfin j'ai été assez gênée, j'aurais pas trop su dire pourquoi. Peut-être que c'est cette image justement chevaleresque de la femme à qui il faut mais j'étais quand même un peu gênée que toutes les femmes se ressemblent et qu'elles soient toutes très caricaturales.
Alors c'est bien parce que t'arrives tout de suite au deuxième des reproches que j'avais à faire au film. Moi j'en avais listé que deux en ce qui me concerne, mais c'est vrai que, alors tant sur la vision des femmes qui est vraiment en décalage que sur les ressorts humoristiques, on voit que le film a 20 ans. Il y a vraiment un scénario dont on sent que le gros du scénario a été écrit il y a 20 ans. Et oui, il y a des choses qui serait plus du tout filmé de la même façon aujourd'hui, et cet anachronisme est gênant à certains moments, pas tant par rapport à la vision chevaleresque de la femme qui en fait est celle de Don Quichotte. Je pense plus à ce personnage d'espèce de femme vamp assoiffée de sexe bizarroïde qui est horrible, qui apporte un élément d'horreur dans ce film, mais qui en fait scénaristiquement apporte quand même pas grand chose. Et on a l'impression que c'est un peu un reliquat d'un vieux cinéma dont on sait plus trop quoi faire dans ce film-là. Et je te rejoins complètement là-dessus. Là où je parlais de justement de cette dimension très 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 ludique, c'est aussi dans dans le fait que Terry Gilliam, avec ce film, finalement, continue à creuser le sillon qu'il a toujours creusé, à toujours aborder ces mêmes thèmes du rêve, de l'imaginaire, comme étant quelque chose qui va réussir à éclairer le monde. Et j'ai un peu l'impression... Alors, tu parlais de film testament, c'est vrai que j'ai une sensation de voir quelque chose de très, très testamentaire là-dedans. L'impression qu'il tentait de faire le tour une dernière fois de tout ce qui a fait son cinéma... que ça soit un message peut-être un peu pessimiste à la Brésil, et on y reviendra, que ça soit aussi sur cette puissance du rêve et de l'imaginaire, la puissance des fous que Terry Gilliam aime à mettre en scène, et quel fou plus iconique que Don Quichotte, ce fou très, enfin je veux dire quasiment fou caldien, quoi. C'est celui qui, en osant tout, rend toute petite les vicissitudes du monde aussi, sur son passage, et tout en étant ridicule, il a quelque chose de très grandiose de ce personnage, et il rayonne en éclairant un petit peu tout autour de lui. On se sent éclairé au passage d'une certaine façon.
Et moi, ce côté un peu testamentaire, c'est justement quelque part ça qui m'a peut-être un peu plus gênée dans le film. C'est la mise en scène de Terry Gilliam, du coup. Et un côté que j'ai trouvé un peu complaisant, justement, dans ce personnage du réalisateur, autour duquel qu'on va suivre avec la caméra. Et j'ai trouvé qu'il y avait toujours un petit côté, bon, ben voilà, on se complaît à mettre en scène le réalisateur un peu perdu, qui galère à faire son film, et qui finalement réussit parce qu'il a une étincelle de génie un peu folle. Et
Terry Gilliam, dans l'histoire, c'est plus Don Quichotte. Enfin, c'est les deux, mais parce que je veux pas trop spoiler la fin, mais les deux sont dans Quichotte. Mais le réalisateur perdu, j'ai plus l'impression que c'est un peu un clin d'œil par rapport à l'histoire du film pour introduire la vraie histoire de Don Quichotte, qui réussit d'ailleurs à s'attacher assez bien à la structure du roman tout en s'en éloignant énormément par les anachronismes. Mais j'ai pas du tout vu ce personnage de Toby comme étant le personnage central qui incarnerait Terry Gilliam.
Ah si, moi si. Je l'ai vu justement sous la houlette de ce Don Quichotte qui est au départ le vieillard là dans son armure qui serait le réel Don Quichotte. Pour moi, lui c'est l'incarnation du personnage romanesque. Et le réalisateur, c'est Terry Gilliam, ce qui est un peu l'apprenti de ce vrai Don Quichotte. Et tout au long apprend à le connaître, à lui ressembler parce qu'il cherche à s'en emparer pour en faire un film. Et à la fin, il y parvient et il devient lui-même Don Quichotte. Moi je l'ai vraiment lu comme ça.
Ça serait possible si Don Quichotte... Si, on recommence. Si Terry Gilliam avait été un apprenti en faisant ce film. Mais j'ai l'impression que justement la posture de Terry Gilliam dans ce film est vraiment plus celle de l'apprenti. D'où la dimension testamentaire aussi.
Bah, ça dépend, c'est un apprenti au sens où il a mis 20 ans quand même à le faire et où peut-être il a réappris à comment faire ce film et à comment justement aborder le personnage de Don Quichotte. Étant donné le temps qu'il a mis à... Bon, parce qu'il a eu plein de problèmes aussi en dehors du strict scénario, mais... Non, je pense qu'il y a vraiment les deux personnages... Enfin, les deux personnages lui correspondent.
Et pour parler de la fin, mais là, de la toute fin, qu'on va peut-être, pas raconter, mais... c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et moi je trouve qu'elle était peut-être un peu trop simple. Enfin, disons que je la trouvais un peu fade.
Je pense que c'est aussi au vu de ce qu'il y a auparavant. On a une déconstruction un peu du personnage de Don Quichotte qui arrive un peu en amont dans le film, mais plutôt vers la fin avec cette histoire avec les Russes. Là. Bon, bref, encore. Pardon, je le dis d'un ton très méprisant, mais vraiment, j'ai pas trop aimé. J'avais l'impression que cette déconstruction arrivait très brutalement. Enfin, d'un seul coup, Don Quichotte se rend compte qu'en fait, c'est juste un vieux fou. Et il s'en rend compte d'une manière complètement bizarre. Enfin, les gens se sont moqués de lui à un moment, ok, d'accord, mais. J'ai l'impression que c'est dommage qu'il n'ait pas gardé ce personnage vraiment de Don Quichotte jusqu'à la fin. Et je pense que c'est aussi ce côté un peu rude de la déconstruction du personnage qui était jusqu'à la Don Quichotte qui peut-être rend la fin un peu fade, comme t'as dit. Enfin, moi, j'ai eu ce sentiment-là.
C'est parce que j'ai eu l'impression qu'au moment où il dit finalement « j'étais qu'un vieux », il est en train de nous dire « j'étais qu'un vieux et je l'ai toujours su ». J'ai pas l'impression qu'il se rende compte à ce moment-là de quoi que ce soit.
Mais bien sûr, mais c'est dommage, j'aurais aimé qu'il ne dise rien du tout.
Moi, j'ai beaucoup aimé.
Mais justement, ça nous fait une excellente transition vers le côté les Russes, le côté beaucoup plus sombre aussi, comme toujours chez Terry Gilliam, de ce même miroir qui nous tend en fait, parce qu'à travers ce rêve qui bondit à travers le temps, à travers l'espace d'un personnage à l'autre, ce rêve très très chamarré, malgré tout cette révélation du monde aussi, enfin de comment il fonctionne, nous force à un certain cynisme. Je pense à un enchaînement assez terrible, on en parlait l'autre soir, Maë, ce moment où ce russe abject fait lécher sa chaussure par la jeune première du film, et juste après on enchaîne avec une valse et cette espèce d'impression d'un monde qui tourbillonne tranquillement, plan, et il nous fait voir le rouage aussi Don Quichotte, ce personnage, par son côté grain de sable.
Moi, c'est vraiment justement ce qui m'a plu dans ce film-là, c'est ces petites scènes où tout d'un coup, ça prend de la profondeur, et justement, moi, la scène où il dit qu'il n'était qu'un vieillard, je crois que c'est une de mes scènes préférées. Moi, j'étais vraiment touchée par ce moment-là, parce que c'est ce moment-là où on quitte un peu le côté potage et juste ludique du film et où on commence à voir un peu le message qu'il y a derrière. Et du coup, ouais, pour moi, c'est ça qui fait que c'est quand même un bon film.
Alors, j'ai aussi été touchée par cette scène, mais simplement, je trouve que c'est... Bon, certes, ça amène des respirations au milieu du flow incessant d'images et de références qu'on nous donne, mais je trouvais que souvent, c'était un peu... un peu dur comme approche et un peu... Ça arrive d'un seul coup comme ça, et bon, le moment où elle lèche je sais plus ce qu'il a fait tomber au sol, enfin. Mais à côté de ça, on garde quand même l'image de la femme qui aime être prisonnière et qui veut. Enfin, je trouve que c'est un peu. On a des petits instants comme des ajouts qui donnent un autre aperçu, enfin, sur le film, mais J'ai l'impression que c'est pas dans la continuité de tout et que ça arrive un peu comme ça. Et enfin, il y a même d'autres moments où on a l'impression que ça a été ajouté juste avant que le film sorte. Le moment de où on a des terroristes, on pense au début, et en fait, il se trouve que c'est juste des migrants qui sont sans papiers. Et on a des moments comme ça où on a l'impression qu'on a des références à l'actualité un peu forcées. Enfin, pareil, on parlait des Russes à un moment. Le patron qui est chez les Russes dit « pense Trump » ou quelque chose comme ça. Je trouve, je sais plus quel autre moment, mais il y a différents moments qui font vraiment explicitement référence à l'actualité. Et voilà, c'est pareil, ça arrive un peu comme ça, de manière un peu lourde. Et donc voilà, c'est pour ça que ça m'a pas complètement convaincue. Mais...
Et au-delà de ça, et je pense que c'est ça la force de ce film, cette idée que la compréhension du monde, la compréhension douloureuse du monde passe par le rêve qui paradoxalement est en dehors de celui-ci, par la rêverie, par le fantastique, et que ce contrepoint nous permet d'arriver à une forme de lucidité qui est certes apaisée mais cynique. On se plonge dans le rêve pour finalement arriver à une connaissance peut-être un peu plus grande de ce qui nous entoure. Et ce qui nous entoure n'est pas forcément dépeint de façon très habile, et je te rejoins là-dessus, mais aussi de nous-mêmes. Et c'est ça qui fait que le film est touchant, parce que cette partie-là du message, je trouve, fonctionne très bien. On le conseille quand même à nos auditrices et à nos auditeurs.
Oui, bien sûr.
Je le conseillerais personnellement sans concession. Non, mais c'est ça qui est plaisant. C'est-à-dire que quand je parle de simplicité, c'est aussi cette simplicité qui consiste à faire un film qui ne sera pas un chef-d'œuvre et qu'on ne peut pas considérer comme raté non plus. Et finalement, faire un film sans avoir la prétention de faire un chef-d'œuvre après 25 ans, c'est une forme d'humilité qui est pas malhonnête non plus. Et on se quitte sur quelques petites idées de sorties cinéma pour cette semaine. Et évidemment, cette semaine, les sorties cinéma sont cannoises, avec un certain nombre de films cannois présentés en avant-première par deux cinémas lyonnais, nos amis des cinémas Lumière et puis le Comédia. Ça commence donc à partir de cette semaine au Comédia avec Libre, le documentaire sur Cédric Héroux, alors qui est malheureusement complet je crois. Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez, où Vanessa Paradis joue une réalisatrice de films porno gay dans une espèce de thriller assez hallucinatoire. Le Dogman de Matteo Garrone, qui lui a valu, enfin pas à lui, mais un prix d'interprétation masculine à Cannes. L'affaire de famille de Hirokazu Kore-eda, qui a reçu la Palme d'Or donc pour ce réalisateur que l'on suit depuis plusieurs films dans d'étoiles plein les yeux, et puis un certain nombre d'autres films. Et du côté des cinémas Lumière, vous pourrez voir, outre ceux dont j'ai déjà parlé, Asako de Ryusuke Hamaguchi, le réalisateur japonais qui fait l'événement avec sa série Senses qui est en salle en ce moment, et donc avec ce nouveau film qui a séduit la critique cannoise, L'étau de Kirill Serebrenikov également, pour ceux qui aiment le rock, avec ce film sur les chapeaux de roue dans la Russie des années 70, Burning de Lee Chang-dong, donc thriller coréen pour les amateurs de thriller coréen, puisque le thriller coréen constitue un genre à lui tout seul, qui a été couronné du prix Fipeski à Cannes cette année aussi, la belle romance Cold War de Pavel Pavlikovski, qui a obtenu le prix de la mise en scène, et puis bien sûr beaucoup d'autres. Et on termine avec les films de répertoire, parce que il faut aussi en parler, beaucoup de belles choses à l'Institut Lumière entre autres en ce moment, avec l'immense Amadeus de Miloš Forman, qui passe en ciné-concert, trois dates, hein, le 7, le 8 et le 9, en ciné-concert à l'Auditorium de Lyon. Et puis pour ceux qui aiment moins les instruments et qui préfèrent les films un petit peu longs, la version Director's Cut de 3 heures passe le 15, le 17 et le 30 à l'Institut Lumière, une occasion assez rare de voir un film donc avec son montage complet sans aucune amputation. À l'Institut Lumière également, un week-end formation du regard, samedi 9 et dimanche 10, avec un certain nombre de films qui seront présentés, films que vous pouvez choisir d'ailleurs d'aller voir indépendamment, et des films qui sont soit des films récents comme Diamant Noir d'Arthur Harari, ou plus anciens comme le magnifique Laura d'Otto Preminger ou Psychose d'Alfred Hitchcock, pour rattraper un petit peu ses classiques pour ceux qui, comme moi, ne l'auraient toujours pas vu. Enfin, une séance spéciale mardi 19 juin à 20h autour de Sorcerer de William Friedkin. Puisqu'on parle de l'homme qui tua Don Quichotte, je pense que c'est l'occasion de faire le lien, puisqu'en termes de tournage catastrophe, je pense qu'on en tient aussi un bon avec Sorcerer et la célèbre scène du pont, entre autres. Ce remake hollywoodien mythique du Salaire de la peur de Clouseau avec Roy Scheider et Bruno Kremer mérite absolument d'être vu et on vous conseille donc de vous rendre à l'Institut Lumière le 19 juin. Voilà, d'étoiles plein les yeux, c'est terminé pour ce 93e numéro. Aujourd'hui, vous écoutiez Juliette Meul, Maë Burla et Rémi Cerda, et on se retrouve d'ici la semaine prochaine, j'espère, sur Transistor. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous dans les salles obscures.